corps. Il a été président de la commission du génie biomoléculaire de 1987 à 1997. Il a été également membre du comité consultatif national d'éthique de 1992 à 2004. Et puis, il est aussi également président de la commission de recherche de la conférence des présidents d'université. Donc, vous voyez, beaucoup de casquettes, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Donc, nous avions proposé à Axel Kahn de nous faire une conférence autour de toutes les problématiques qu'il a développées depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire finalement la biologie par rapport à l'homme. Hein. Quel avenir ? Je vous laisse la parole, Monsieur le Président.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les professeurs de SVT, membres de l'APBG, effectivement, je vous souhaite la bienvenue, puisque vous êtes ici dans le grand amphithéâtre Binet du Centre universitaire des Saints-Pères, qui est le principal site universitaire de l'Université Paris-Descartes, dont j'assure la présidence depuis maintenant 4 ans. Grande université, une des plus grandes du pays, 40 000 étudiants, passé de 22 000 étudiants à 40 000 étudiants en 10 ans. Donc, une notoriété et une progression tout à fait considérable. Université pluridisciplinaire, bien évidemment, mais qui se veut l'université des sciences de l'homme et de la santé. Par conséquent, ma foi, si l'on veut demander une conférence sur l'avenir de l'homme et de la biologie, pourquoi ne pas le demander au président de l'université des sciences de l'homme et de la santé ? Il est en situation. Par ailleurs, vous n'avez pas eu à faire preuve d'une imagination considérable parce que je suis un bon client de la PBG. Après tout, c'est au moins la 3e fois que je viens à vos réunions, je me le rappelle, au moins, et j'ai l'impression de vous connaître, et surtout, excusez-moi pour les autres, de connaître M. Ulysse depuis tout temps. Je vais traiter en effet de l'avenir de l'homme et la biologie, de la biologie et l'homme. Et si j'ai le temps, si je n'ai pas le temps, je m'interromprai auparavant, si j'ai le temps, je tâcherai de traiter 6 chapitres et une conclusion. Le premier chapitre consistera à tenter de répondre à la question, d'un point de vue biologique, l'homme, homo sapiens, continue-t-il à évoluer ? Sommes-nous dans l'évolution quant à nos caractères physiques et à nos caractères mentaux ? La deuxième question, le deuxième domaine, est comment ferons-nous des enfants demain ? Quelle sera la place des femmes et des hommes dans ce processus ? Le troisième champ est celui de la question, l'homme sera-t-il capable de prendre en main sa propre évolution, de modifier son essence, toute la problématique du transhumanisme ? La quatrième question que je tâcherai de traiter est liée au génome. La connaissance du génome humain débouchera-t-elle sur la connaissance de l'avenir de chacun ? Cela permet-il d'imaginer un monde où la prévention des maladies remplacera leur traitement ? Cinquième domaine. Demain, saurons-nous lire à livre ouvert dans les pensées d'autrui et les corriger à façon ? Et sixième question, demain, serons-nous immortels ? Et enfin, je traiterai, et en tout cas, je conclurai, demain, serons-nous humains ? Voyez, vaste programme. Chapitre 1. Sommes-nous toujours engagés dans l'évolution darwinienne ? Continuons-nous à évoluer ? Et si oui, qu'est-ce qui évolue en nous ? De notre corps, de notre esprit, de nos comportements, de nos capacités mentales. Nous sommes des mammifères, des primates catarrhiniens, nous sommes des êtres vivants, et il n'y a aucune raison que nous soyons totalement à l'écart désormais du processus de l'évolution. Donc la première réponse que je vais naturellement illustrer, vous savez, je n'assène pas comme ça des réalités, est que bien entendu, l'homme continue d'évoluer considérablement, et il évolue d'ailleurs soumis à deux influences considérables de l'environnement. Il n'est pas le seul à ce titre, mais il est sans doute celui pour lequel le phénomène est le plus marqué. Il évolue en fonction de l'environnement en tant que tel, et il évolue en fonction de l'environnement qu'il a lui-même changé. L'homme, en quelque sorte, est l'acteur de son évolution dans un environnement sur lequel il pèse considérablement. Je vais vous en donner quelques exemples rapides. Tout d'abord, comment illustrer cela ? On va l'illustrer un peu par l'histoire et également par l'actualité. L'histoire, ce sont des processus évolutifs extrêmement classiques qui, vous le savez, expliquent la prévalence de certaines maladies génétiques. Les mieux connues d'entre elles sont la drépanocytose, le déficit érythrocytaire en glucose 6-phosphate déshydrogénase, d'autres hémoglobinopathies encore, mais également la mucoviscidose. Pour ce qui concerne le déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase et la drépanocytose, les démonstrations ont été faites. Ce sont des maladies dont la répartition mondiale recouvre très exactement la répartition mondiale de l'impaludation, de la fréquence du paludisme. Bien entendu, être atteint à l'état homozygote d'une drépanocytose ou bien d'un déficit à l'état hémizygote chez les mâles, chez les hommes, puisque la maladie est liée au chromosome X, d'un déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase ne confère pas d'avantage sélectif. En revanche, il a pu être montré par des travaux expérimentaux que l'hétérozygosie pour la drépanocytose et chez les femmes, l'hétérozygosie pour le déficit en G6PD conférait une meilleure résistance au paludisme. Et par conséquent, il y a eu au cours de l'évolution une sélection positive des hétérozygotes pour ces deux maladies du globule rouge, aboutissant à ce qu'il y ait une surreprésentation des hétérozygotes, et par conséquent, dès lors qu'il y a beaucoup d'hétérozygotes et qu'ils se marient entre eux, forcément, eh bien, la naissance d'homozygotes qui, eux, ne sont évidemment pas avantagés. Le mécanisme ne souffre aucune hésitation, aucun doute. De la même manière, on considère, en règle générale, qu'il existe sans doute une certaine relation entre la mucoviscidose et la fréquence de certaines maladies, par exemple les diarrhées et les conséquences des diarrhées et la mortalité infantile. Comme vous savez, la mucoviscidose est liée à l'anomalie d'un canal chlore et le déficit en les mutations du gène codant CFTR, ce canal chlore, aboutit à une diminution de la sécrétion de chlore. Si bien que là encore, les hétérozygotes pour le déficit, pour l'anomalie de ce canal, sans doute ont été relativement prémunis des très importantes déperditions de sel au cours des diarrhées infectieuses, ce qui a pu entraîner une diminution de la mortalité infantile des enfants atteints de diarrhée quand ils étaient hétérozygotes pour CFTR, la mutation CFTR, et par conséquent, en contrepartie, cette fréquence des hétérozygotes a abouti à ce que des homozygotes naissent en quantité. Un autre exemple qui est bien connu, qui est sans doute la raison pour laquelle la mutation de l'hémochromatose est tellement fréquente. L'hémochromatose est l'une des plus fréquentes de toutes les maladies génétiques, puisque le gène de l'hémochromatose, qui entraîne une augmentation de l'absorption du fer par l'intestin, et donc une surcharge en fer, est répartie dans la population à l'état hétérozygote, telle qu'une personne sur 30 ou une personne sur 40 a ce gène morbide. Ici, l'avantage sélectif est parfaitement clair. Il est avant tout féminin. Lors du début de la menstruation chez les jeunes filles, les grossesses à répétition, avant que le traitement martial ne puisse pallier cette carence en fer, était à l'origine d'un affaiblissement très important, nuisant à la santé, à la fécondité, et par conséquent, l'augmentation constitutionnelle de l'absorption du fer chez les femmes portant cette mutation a pu les prémunir contre toutes les conséquences de la carence martiale et aboutir à un avantage sélectif. Voilà quelques exemples extrêmement classiques montrant que l'espèce humaine est encore pleinement dans l'évolution. Or, bien entendu, nous continuons de changer en permanence notre environnement. Et cet environnement fera peser une pression sélective sur les générations futures. Le meilleur exemple connu de cela, connu de tous, c'est l'obésité et le diabète. Jadis, il y a quelques siècles de cela, dans tous les pays du monde, les années de vaches maigres, les conditions de carence alimentaire étaient autrement plus fréquentes que la surabondance alimentaire. Or, il est bien connu que la quantité de masse grasse, notamment pendant la grossesse, est un facteur fondamental pour assurer le poids de l'enfant à la naissance. Le poids de l'enfant à la naissance est un facteur fondamental de survie et conditionne également en partie l'avenir pathologique de l'enfant. Et également, cette quantité de masse grasse assure la qualité de la lactation, l'allaitement étant jusqu'à il y a peu la condition de la survie des enfants. Par conséquent, tout a concouru pour sélectionner les environnements génétiques, faisant que nos concitoyens profitaient de tout pour assurer les meilleures conditions de reproduction. Sauf que lorsque la civilisation humaine, les progrès de l'agriculture, le progrès de l'économie a abouti à ce que la carence habituelle en fourniture alimentaire a fait place à ce que l'on appelle le régime drugstore, alors ces bons gènes de la résistance à la disette sont devenus les gènes de l'obésité. Et l'on a vu l'obésité devenir une maladie de civilisation. Le phénomène a pris un tour explosif, comme on peut s'y attendre. lorsque la transition a été brutale, comme elle l'a été lorsque des sociétés restées jusqu'à il y a très peu dans les conditions de vie standards de l'ancien temps sont passées au régime drugstore. C'est le cas des sociétés dites primitives, mises en contact brutalement avec la civilisation occidentale. Pensons aux Inuits, pensons aux Indiens Pima au Nouveau-Mexique, pensons aux Mélanésiens de l'île de Nauru. Jusqu'à la défaite des Japonais en 1945, ces populations insulaires du Pacifique ne connaissaient que ce régime de famine habituelle. D'un seul coup, en 1945, c'est la surabondance du régime drugstore qui a pris la place de ce régime habituel. On a vu se développer chez les Inuits, chez les Indiens Pima, chez les Mélanésiens de l'île de Nauru, une extraordinaire épidémie d'obésité. 60% de la population est obèse. 40% de la population est diabétique. La fécondité diminue. La mortalité augmente. Si bien qu'il n'y a pas de doute que dans quelques décennies, l'obésité aura commencé de régresser chez les Inuits, chez les Indiens Pima, dans l'île de Nauru, mais également dans nos civilisations, puisque il y a ici la transition de ces bons gènes de résistance à la disette qui sont devenus des gènes de morbidité dans le régime moderne et par conséquent, ils vont progressivement être éliminés par la sélection naturelle. Et si jamais, et personne ne peut en juger, ce régime de surabondance continue, alors dans 2 ou 3 siècles, l'épidémie d'obésité sera derrière nous, car nous nous serons adaptés à nouveau à sélectionner les gènes qui nous permettent de ne pas faire du lard face à ce régime. Voilà. Nous sommes totalement, complètement, absolument dans l'évolution. Et nous pourrons évoluer en fonction du réchauffement climatique, en fonction de la surpopulation, etc., etc. Il n'y a pas de doute. Les exemples sont innombrables. Est-ce que cette évolution va nous amener à devenir de plus en plus intelligents, de plus en plus savants, de plus en plus puissants? Est-ce que l'évolution va aboutir à faire croître ce qu'il y a de plus caractéristique dans notre humanité, c'est-à-dire nos capacités mentales? Là, la réponse est sans hésitation non. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'il faut se rappeler ce qu'est le mécanisme de la sélection darwinienne. Le seul mécanisme de la sélection darwinienne. Le seul mécanisme de la sélection darwinienne est celui par lequel les gènes qui, dans un environnement donné, confèrent un avantage reproductif, sont sélectionnés. Ceux qui sont neutres ne sont ni sélectionnés ni éliminés. Ceux qui confèrent un désavantage reproductif sont progressivement éliminés. Tel est le mécanisme de la sélection darwinienne. Or, cela fait bien longtemps qu'être un intellectuel savant, intelligent et créatif ne fait pas de nous des reproducteurs plus efficaces. Très longtemps. Par conséquent, aucun mécanisme n'existe pour confirmer le fantasme présenté ça et là, selon laquelle cette évolution à laquelle nous sommes sensibles, continuerait de faire évoluer nos capacités créatives. D'ailleurs, et Henri de Lumley vous en parlera tout à l'heure, quand on regarde l'extraordinaire richesse d'Homo sapiens il y a tant de dizaines de milliers d'années. Je ne prendrai qu'il y a 36 000 ans, la grotte Chauvet, la création de beauté. La création de beauté est incontestablement une aptitude spécifiquement humaine. Personne n'est capable de dire que la qualité et la quantité de beauté, même si le but de créer de la beauté n'était à l'évidence pas le but des hommes de Cro-Magnon de l'époque, n'est en rien inférieure à celle qui habitait Rembrandt, Vermeer, Picasso ou bien d'autres. Selon toute évidence, les capacités de créativité, les capacités mentales de notre humanité sont remarquablement stables depuis des dizaines de millions de milliers d'années. Simplement, il se fait que, comme le disait Pascal, toute la suite des hommes durant le cours de tant de siècles est comme un seul homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement, et par conséquent, notre civilisation est incontestablement de plus en plus savante et de plus en plus puissante. Deuxième chapitre. Comment ferons-nous des enfants demain ? Il n'y a pas de doute que, grâce à la biologie moderne, nous sommes d'une extraordinaire inventivité. Et que sans doute, demain, on fera des enfants, peut-être comme on le fait aujourd'hui, je n'en sais rien, il y a certains agréments à cela, mais également de maintes autres manières. Comment peut-on faire des enfants aujourd'hui ? On peut se faire des câlins sous la couette, ça c'est classique. On peut recourir à l'assistance médicale à la procréation, au transfert de gamètes, à la fécondation in vitro, à l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, ça c'est du passé. Demain, on pourra également, et ça n'est pas encore maîtrisé, mais c'est un avenir quasiment certain, on pourra fabriquer des gamètes sans gonades. Aujourd'hui, ce sont les testicules qui permettent de fabriquer des spermatozoïdes et ce sont les ovocytes qui permettent de fabriquer des ovocytes, des ovules. Les ovaires qui permettent de fabriquer des ovocytes, les ovaires. Aujourd'hui, par la méthode des cellules souches pluripotentes induites en particulier, l'on est capable, par transfert de 4 gènes dans des cellules quelconques, de la peau par exemple, des cellules du sang, de fabriquer des cellules qui ont toutes les caractéristiques de cellules souches embryonnaires. On commence à savoir commander à ces cellules souches embryonnaires de devenir des ovocytes, ou du moins des précurseurs d'ovocytes, et devenir des précurseurs de spermatozoïdes, au moins des spermatides, ou des spermatogonies. Et par conséquent, il y a fort à parier que demain, à partir de ces cellules, on pourra fabriquer des gamètes qui pourront s'entreféconder. Des spermatozoïdes issus de cellules souches pluripotentes induites qui féconderont des ovocytes dérivant de cellules souches pluripotentes induites. Cela veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que les femmes n'auront plus du tout besoin des hommes pour avoir des enfants, si elles le désirent. Après, on discutera de savoir si elles le souhaitent, mais en tout cas, si elles désirent s'en passer, elles le pourront. Et d'ailleurs, elles le pourront d'autant plus qu'à partir de peau féminine, il sera capable de fabriquer et des ovocytes et des spermatozoïdes, mais que ces ovocytes seront X et que ces spermatozoïdes seront X et que par conséquent, ces femmes ne pourront faire que des filles. Ce qui n'est pas grave, vu qu'elles pourront se passer totalement des garçons. Par conséquent, demain, un couple de femmes homosexuelles qui le désirerait pourra procréer ensemble et avoir toute une diversité de petites filles qui ne seront absolument pas des clones, absolument pas des jumelles. Les unes seront brunes, les autres seront blondes. Elles auront toute la diversité qu'ont les familles habituelles où il y a une masse de filles. Elles n'auront pas de garçons. Les hommes, maintenant. Les hommes, à partir de leur peau, pourront faire également des spermatozoïdes X ou Y. Ils pourront faire des ovocytes X, et évidemment, les ovocytes Y ne seront pas viables. On les jettera. Donc, les hommes, c'est le seul avantage qu'ils aient, seront capables de faire des gamètes qui, par leur union, pourront donner des garçons et des filles. Si ce n'est qu'il leur manque quelques petits détails pour y parvenir, en particulier un utérus. Et par conséquent, autant les femmes pourront se passer totalement des hommes, les hommes ne pourront jamais se passer totalement des femmes, jusqu'à, et j'y reviendrai, qu'ils soient capables de créer des utérus artificiels. Et c'est toute la dimension, mais ce n'est pas le sujet que j'en parle ici, des mères porteuses, c'est un grand problème éthique. Je n'en parlerai pas, vous ne m'avez pas demandé de vous faire une conférence éthique, mais une conférence sur les perspectives. Bien évidemment, la totalité des perspectives que je vous présente soulève de considérables questions morales et éthiques. Mais je laisse à votre conscience le soin d'y réfléchir. Cette avancée est tout à fait considérable. Une autre possibilité ouverte pour que des femmes aient des enfants ensemble, ce serait de prendre les ovocytes d'une des femmes d'un couple féminin, prendre les ovocytes de l'autre, et par petite modification, transformer ces ovocytes en équivalent d'un gamète mâle fécondant. C'est une expérience qui a déjà été réussie chez la souris. Et là aussi, la fusion de ces deux ovocytes, un ovocyte ovocytaire et un ovocyte transformé en équivalent de gamètes mâles fécondants, pourrait permettre à ce couple féminin d'avoir toute une série de filles. Là encore, les hommes ne pourront pas faire cela sans mère porteuse. Enfin, le clonage, je ne vais pas en parler longuement, le clonage perd beaucoup de son intérêt, on va dire reproductif, face aux perspectives que je viens de vous résumer. Le clonage permettrait, si je prends toujours l'exemple du couple de femmes homosexuelles, permettrait à ces femmes d'avoir alternativement des jumelles de l'une et de l'autre des partenaires. Mais on voit bien que, par rapport au désir d'avoir une famille et de créer de la diversité à travers ces enfants, dont on désire qu'ils procèdent des parents, mais qu'ils ne soient pas la reproduction des parents et qu'ils soient différents les uns des autres, le clonage reproductif n'est pas une voie privilégiée pour y parvenir. Et par conséquent, l'indication du clonage humain, qui, quand il sera maîtrisé, sera fait à des fins transgressives, n'ouvrira sans doute pas la voie, ce qui ne lui enlève rien, au caractère symbolique moral, évidemment. Mais on ne peut pas prévoir un monde où le clonage humain deviendrait pratique habituelle, on va dire. Alors que, en effet, les perspectives de reproduction dont je vous ai parlé sont tout à fait importantes. Ces perspectives de reproduction, d'ailleurs, peuvent connaître des variations considérables. Un aspect qui est agréable, vous le savez bien, dans la manière traditionnelle de faire des enfants et que le câlin sous la couette garde des vertus et que les hommes et les femmes y restent assez attachés. Et par conséquent, un homme stérile pourrait considérer, une femme d'ailleurs dont le compagnon est totalement stérile, dépourvu de gamètes fabriquant des spermatozoïdes, pourrait trouver qu'il est dommage, après tout, de ne pas recourir à ce moyen pour faire des enfants. Qu'à cela ne tienne, on pourrait, par la technique des cellules souches pluripotentes induites, on pourrait fabriquer des spermatogonies que l'on grefferait dans les testicules anormaux de l'homme stérile, qui se mettrait par la copulation à éjaculer des spermatozoïdes portant le génome d'un autre. Ou éventuellement portant son génome, si on avait utilisé ses propres cellules pour faire des spermatogonies. Et alors, ce serait une merveilleuse technique de traitement de la stérilité masculine. Donc, il n'y a pas de doute. Le monde de demain verra des bouleversements considérables dans la manière de faire des enfants. Considérables. Amenant à aborder de manière toute nouvelle, naturellement, la question de l'homoparentalité. L'homoparentalité féminine deviendra aisée, elle l'est déjà, grâce à la fécondation artificielle, elle deviendra aisée au sein même du couple. L'homoparentalité masculine continuera de dépendre d'une mère porteuse, à moins que l'on fabrique la matrice artificielle. Livre de mon ami Henri Atlan, l'utérus artificiel. Là, les progrès sont très lents. Quand je dis progrès, c'est progrès technique. Les progrès sont très lents. Et en réalité, on n'a pas tellement progressé. Et autant les perspectives de révolution procréatique dont je vous parle sont une prévision et non pas une prédiction. On arrivera à faire ce que je vous ai dit. Autant je ne suis pas sûr qu'on n'arrive jamais à faire des utérus artificiels, ou alors dans les siècles qui viennent. En effet, quand on sait que l'extrême prématurité, quand un enfant naît avant 25 semaines de grossesse, on a toutes les peines du monde à le laisser vivant, et qu'on n'arrive absolument pas à maintenir en culture un embryon au-delà de 7-8 jours, on voit bien l'énorme travail qui reste à faire. La question fondamentale posée par l'utérus artificiel, et c'est la seule petite entorse que je ferai à ma promesse de ne pas parler de morale et d'éthique, mais c'est un problème de société, c'est que chaque femme doit se poser la question. Imaginons que l'utérus artificiel existe. Imaginons que les femmes et les hommes, dès lors, contribuent également à la filiation par leurs gamètes, et que la charge de la grossesse et de l'accouchement, de la lactation, ne repose plus uniquement chez les femmes, cela serait-il pour les femmes une chance et une victoire de parvenir à une vraie égalité ou une dépossession et une menace? Je vous laisse, mesdames, le soin d'y réfléchir et d'en discuter entre vous. De toute façon, vous avez le temps, car on n'est pas prêt d'y parvenir. Troisième chapitre. Serons-nous demain capables de prendre en main notre évolution, de modifier notre génome par transfert de gènes multiples, de faire naître des personnages, des individus, des femmes et des hommes, dotés de caractères nouveau. Et par conséquent, pourrons-nous remplacer l'évolution naturelle, qui est la sélection par l'environnement, que ce soit un environnement humain ou un environnement sans que l'homme l'ait modifié, par une évolution dirigée? La réponse est la question est absurde. La question est absurde parce que, qu'il s'agisse des plantes, des animaux ou de l'homme, personne d'entre nous ne peut connaître ce que sera l'environnement, ne serait-ce que dans un siècle. Et dans la méconnaissance où nous sommes de l'environnement et des facteurs de sélection naturelle, dans ne serait-ce qu'un siècle, bien évidemment, on est totalement incapable de savoir quels caractères seront avantageux pour le futur. Et par conséquent, l'illusion de remplacer la sélection naturelle, qui est l'essai aléatoire, sans idée préconçue, suivi de sélection par une volonté humaine rationnelle, est une idée profondément absurde. Profondément. Cela étant dit, le fantasme, et d'ailleurs la réalité peut exister, de créer des caractéristiques dont certaines seront héréditaires, nouvelles, par transfert de gènes. Il ne s'agit pas tellement par là de thérapie génique germinale, parce qu'on voit bien que s'il s'agit d'éviter que naissent des enfants atteints d'une maladie grave, le diagnostic prénatal est tout de même plus facile et plus sûr qu'une modification génétique extrêmement aléatoire. Non, il s'agirait de ce que l'on appelle le gene enhancement, d'amélioration génétique, et je dirais plus simplement de dopage génétique. Quand on voit la pulsion qui conduit les personnes, pas simplement les sportifs, mais notamment les sportifs, à utiliser tout ce que la science et la technique mettent à la disposition de notre société pour faire apparaître de nouvelles caractéristiques, de nouvelles capacités, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute que lorsque ce sera efficace, on utilisera le gène comme procédure dopante. C'est une quasi-certitude. Le dopage génétique est une certitude. Il est pour demain. Que pourrait-on faire? Eh bien, on pourrait envisager sans trop de difficultés de transférer des copies supplémentaires de gènes codant de l'érythropoïétine naturelle, indétectable, de telle sorte que ce léger excès d'érythropoïétine, éventuellement modulable par la prise d'une drogue inductrice, permette d'améliorer la capacité oxygénique du sang pour l'effort considérable, tels que l'ascension des cols en montagne, la course de fond ou n'importe quoi. On pourrait sans doute imaginer faire naître des lignages ayant les caractéristiques physiques de taille pour créer une équipe de basketteurs extraordinaire. Aucun enfant mâle inférieur à 2,10 m. On pourrait imaginer également faire naître des lignages extraordinairement costauds pour la future équipe d'haltérophilie, imbattable. Je crains malheureusement qu'on ne le fasse. C'est envisageable, ça n'est pas maîtrisé aujourd'hui. Cela n'aura aucune valeur sélective, naturellement, parce que cela sera-t-il avantageux demain de mesurer 2,10 m? Cela sera-t-il avantageux demain d'avoir une masse musculaire considérable? Personne ne peut l'affirmer, bien entendu. Ça peut être un handicap tout à fait considérable. Quant à augmenter par transfert de gènes les capacités mentales elles-mêmes, aujourd'hui, il n'y faut pas trop rêver. Tant les éléments qui interviennent dans la richesse psychique d'une personne sont interdépendants les uns des autres et dépendent peu d'un caractère unique, on est sans doute là dans le domaine de la fantasmagorie. Passons maintenant au génome. D'après Platon et ses autres élèves, Socrate aurait enjoint l'humanité de se connaître elle-même. Connais-toi toi-même. Injonction Socrate. Est-ce que nous sommes à la veille de pouvoir enfin nous connaître nous-mêmes, de pouvoir enfin lire à livre ouvert dans notre présent et dans notre avenir grâce au séquençage total de notre génome individuel et à la compréhension exhaustive du langage contenu dans le code génétique? Beaucoup le croient. Peut-être la majorité, d'ailleurs, le croit. J'étais, il y a un peu plus d'une année de cela, à la table de l'ambassadeur d'Allemagne, avant un congrès que je co-organisais avec le recteur de la Charité à Berlin, de l'université de la Charité à Berlin, un congrès sur l'avenir de la médecine. Et devant introduire avec mon collègue allemand le dîner, auquel participaient une vingtaine, trentaine de personnes, j'étais amené à dire qu'il ne fallait pas trop se leurrer quant aux perspectives de la médecine de prévision découlant des données génétiques, puisqu'au moins 30% de la morbidité était liée aux conduites à risque, conduites alimentaires, conduites de comportement sexuel, intoxication, suicide, et que drogue, alcoolisme, prise de drogue sous toutes ses formes, que ces conduites à risque étaient liées à une réaction de notre intérieur psychique à un environnement humain agressif et que cela était sans doute inaccessible à la connaissance découlant du séquençage de nos gènes. Après moi, un tour de table fut fait et la parole fut donnée à Nicolas Bavrès, que vous connaissez tous, grand héros du néolibéralisme sarkozyste. Nicolas Bavrès parla un peu en ces termes. Il nous dit, j'ai bien entendu le professeur Kahn, mais qu'il ne s'inquiète pas. Mes collègues généticiens m'ont affirmé, c'est vrai qu'ils lui ont affirmé, que demain, on pourrait séquencer le génome individuel pour quelques centaines d'euros, et c'est sans doute vrai. Demain, nous connaîtrons le génome, notre génome, très largement. Nous connaîtrons les déterminants génétiques de nos conduites à risque, dont a parlé le professeur Kahn, et nous pourrons y mettre bon ordre. Le prévisionniste libéral Nicolas Bavrès ne doutait guère que notre futur, notre avenir, notre être profond fût inscrit dans nos gènes. En réalité, c'est une absurdité. C'est une absurdité, d'ailleurs, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est une incompréhension qui est ainsi révélée de ce qu'est le programme des gènes. J'ai eu l'occasion de vous le dire en des conférences antérieures, je vous le rappelle. Les gènes codent des propriétés, les gènes ne codent pas un destin. Les gènes codent des propriétés de susceptibilité à des maladies, de susceptibilité à notre environnement, de résistance ou de sensibilité. Notre destin dépend de nos propriétés telles qu'elles nous mettent en demeure de rencontrer un environnement qui, lui, n'est pas génétiquement déterminé. Et c'est en ce sens que nos gènes ne codent jamais un destin. En d'autres termes, il est possible que des gènes codent une propension particulière à l'agressivité, à la violence. Je salue mon excellent ami, le professeur Henri de Lumley. J'ai parlé de vous tout à l'heure, monsieur Henri de Lumley, en annonçant la merveille que serait votre conférence tout à l'heure. Vous voyez, vous... j'ai parlé de ce que le futur que je présente serait, comme c'est logique d'ailleurs, précédé du passé, par vous-même. Alors, si vous voulez me contredire, que vous le fassiez d'ailleurs en toute connaissance de cause, j'ai indiqué que sans doute, l'évolution ne serait pas amenée à augmenter demain nos capacités mentales. Donc, si vous voulez contredire ce que j'ai dit, vous pouvez vous y préparer. Je vous ai dit que les gènes codaient un destin et ne codaient pas des propriétés. Que les gènes codaient des propriétés et ne codaient pas un destin. Voilà, c'était pour tester si vous m'écoutez. Formidable. Les professeurs de SVT sont mieux que leurs élèves. L'exemple le plus merveilleux de cela est une découverte qui a été faite il y a quelques années. Cette découverte fait suite à la publication, il y a à peu près une vingtaine d'années, d'une famille hollandaise dans laquelle il y avait co-ségrégation entre un comportement habituel d'agressivité sexuelle, de délinquance et notamment de délinquance sexuelle, et de déficit en monoamine oxygénase A, le gène MAOA, étant porté par le chromosome X, les hommes étaient hémizygotes et étaient évidemment les plus enclins à avoir ce déficit. En cas de déficit en monoamine oxydase A, les monoamines intracérébrales médiateurs sont élevées. Et la question s'est posée, d'ailleurs, cette question a été résolue par les grands titres des journaux de l'époque. On a trouvé le gène du crime. On a trouvé le gène de la délinquance. Et puis les travaux ultérieurs ont eu quelques difficultés à démontrer cela. Jusqu'à ce qu'une équipe américaine ait décidé de faire une étude épidémiologique à double entrée. Cette équipe a étudié l'influence de deux déterminants sur la probabilité de jeunes adultes à avoir des comportements délictueux. Le premier déterminant, c'est d'avoir une activité MAO à haute ou basse. La deuxième entrée était avoir ou n'avoir pas eu une enfance heureuse. En effet, il est de notoriété publique et l'actualité judiciaire l'illustre chaque jour que le déterminant le plus important de la délinquance des adultes est la maltraitance qu'ils ont subie étant enfants. Et le résultat est le suivant. Chez les enfants dont l'activité MAOA est élevée, donc dont le taux de monoamine intracérébrale est basse, chez ces enfants, le fait d'avoir eu une enfance heureuse ou d'avoir été plutôt bousculé, maltraité dans l'enfance, n'a pas d'incidence sur le risque qu'ils deviennent des délinquants. En revanche, chez les enfants qui ont été maltraités dans l'enfance, ceux qui ont eu la chance d'avoir hérité d'un allèle de MAOA à forte activité n'ont pas de sur-risque d'être délinquants. Ceux qui, ayant été maltraités, ont hérité d'un allèle à faible activité MAOA ont un risque multiplié par 5 à 8 d'être des délinquants. Interprétation que vous avez faite, naturellement, et je confirme ce que vous avez pensé, le gène de MAOA est nullement un gène du destin d'être un délinquant. Le gène MAOA est un gène de susceptibilité au caractère traumatisant qu'est évidemment d'être maltraité quand on est petit. Voilà tout ce que la génétique nous a appris. L'autre raison pour laquelle cette certitude de Nicolas Bavraise est absurde, c'est que j'ai plaisir à raconter une histoire. L'histoire est celle d'un homme dont on viendrait de séquencer tout le génome. Et son médecin, à la lecture de ce génome, lui dirait « Écoutez, monsieur, vous avez une très grande susceptibilité aux maladies sexuellement transmissibles, donc vraiment allez-y mollo avec le sexe. Sortez couvert systématiquement. Par ailleurs, vous avez une très grande susceptibilité au mélanome. Ne sortez jamais dehors sans chapeau, sans des manches longues, des gants si possible, car votre peau est très fragile. Votre foie est anormal, il métabolise mal les graisses. Et par conséquent, faites attention, le foie gras vous est totalement interdit. Prenez du jambon maigre enlevé, certainement. Et puis, le sel vous est interdit, donc le poireau à l'eau et sans sel est certainement ce qui sera le mieux pour vous. Et alors, l'homme plein d'espoir demande au médecin, mais alors docteur, formidable, formidable, j'ai eu raison tout de même de payer 500 euros pour faire séquencer mon génome. Et grâce à ça, j'ai écouté vos conseils, grâce à ça, je vais vivre longtemps. Et vous savez, les médecins, ils ne mentent jamais. C'est vraiment une confrérie exceptionnelle comme la vôtre. Et ce médecin, par conséquent, répondra, « Oh, vous savez, monsieur, je ne peux pas vous dire ça, mais en tout cas, ce que je peux vous affirmer, c'est que la vie vous semblera longue. » Autre question. Cinquième chapitre. Est-ce que demain, nous pourrons lire dans les pensées à livre ouvert et les corriger à volonté? Ça, c'est tout le domaine du progrès des neurosciences. Ce progrès des neurosciences, il est tout à fait considérable. Il est merveilleux. Et bien entendu, sans être d'un réductionnisme que je condamne, on connaît de mieux en mieux les corrélats neurobiologiques de la pensée. C'est-à-dire, on sait de mieux en mieux quelles sont les cellules, les modifications ioniques, les structures anatomiques, les connexions, les circuits qui sont activés lorsqu'une personne est confrontée à telle ou telle tâche psychique. On le connaît de mieux en mieux. Mon ami, mais aussi, et je le dis avec beaucoup de respect, adversaire idéologique Jean-Pierre Changeux, en conclut que demain, grâce au perfectionnement extraordinaire de l'imagerie fonctionnelle cérébrale et d'autres méthodes, on pourra demain lire à livre ouvert dans les pensées d'autrui, savoir exactement quelle est la richesse de leur monde psychique. En réalité, je n'en crois rien. Pour autant, il est vrai que d'ores et déjà, cette connaissance des corrélats neuronaux de la pensée nous permet d'agir avec énormément d'efficacité sur les émotions, sur les pulsions, sur les pensées. Un exemple typique de ce pouvoir est illustré, certes depuis très longtemps, par la suggestion, par les drogues hallucinogènes, mais de manière plus moderne, par la stimulation répétitive profonde électrique que l'on met en train pour des maladies neurologiques graves, comme la maladie de Parkinson, et peut-être demain pour des troubles obsessionnels compulsifs. On sait que l'application d'un courant alternatif à haute fréquence, dans des structures particulières, constitue un traitement symptomatique très efficace des troubles de forme très grave de Parkinson et également arrive à libérer expérimentalement, ce n'est pas encore un traitement de routine, des personnes de la contrainte épouvantable que sont les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC. Parfois, les électrodes ne sont pas exactement à la bonne place. Et dans une expérience d'une équipe française, de deux équipes françaises, deux exemples ont été rapportés. Celle d'une femme qui était traitée par ce traitement, et lorsque les électrodes, lorsque le courant était administré, cette femme, qui était plutôt d'un naturel enjoué et optimiste, se mettait d'un seul coup à sombrer dans une dépression profonde. Son visage se décomposait. Elle se mettait à pousser des grands cris, à pleurer. Elle était traversée par des idées de suicide. Et d'ailleurs, dans très peu de cas, ce traitement a entraîné des suicides dans l'histoire. Il suffisait d'interrompre ce traitement pour qu'immédiatement le naturel optimisme de cette femme revienne. À l'inverse, on a obtenu le contraire. L'impulsion électrique, les électrodes étaient à un endroit un peu différent, provoquait d'un seul coup un comportement totalement exubérant, avec des rires, un enthousiasme sans raison, qui faisait place à plus de rationalité et plus de mesure lorsque le courant cessait. Demain, ce que l'on obtient aujourd'hui par implantation intracérébrale d'électrodes pourrait être obtenu par administration d'ondes extracérébrales. De la même manière qu'on est bien capable de faire marcher des tramways par des ondes qui viennent de l'extérieur, il n'y a pas de problème, on doit être capable, par un système de cet ordre, de stimuler de manière extrêmement précise telle ou telle zone cérébrale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute que demain, les moyens techniques existants, certes pour guérir certaines anomalies psychiatriques graves, pour libérer des personnes de contraintes terribles, par exemple celles de troubles obsessionnels compulsifs, ces méthodes feront des progrès. Mais que les mêmes méthodes pourront être utilisées pour accroître les capacités d'assujettissement de la pensée. Ce sera une possibilité. Savoir l'usage que l'on fera de cela est évidemment un grand défi éthique, moral et politique. Et je vous ai dit, ce n'est pas mon propos que d'aborder ces questions-là. Mais je le laisse à votre sagacité et à votre sagesse. Et enfin, pour terminer, comme ça j'aurais, je crois, tout à fait réussi à atteindre mon contrat. Sixième chapitre. Demain serons-nous immortels. S'il y a un domaine où la biologie a fait des progrès extraordinaires, c'est le domaine de la biologie du vieillissement. Et cela dans deux voies parallèles. La voie de la biologie du vieillissement à proprement parler et la médecine régénératrice d'autre part. Commençons par les premiers progrès. Les premiers progrès reposent sur trois groupes de connaissances. Premièrement, quels sont les mécanismes du vieillissement d'organismes modèles dont les plus utilisés sont Caenorhabditis elegans, le nématode que vous connaissez bien, et la drosophile. Le deuxième modèle, c'est les maladies génétiques entraînant une accélération des processus de vieillissement. Le troisième modèle est la sénescence cellulaire en culture de cellules. Très rapidement, on s'est rendu compte aujourd'hui que, sans doute, les mécanismes du vieillissement ont été acquis par un ancêtre commun à tous les animaux, c'est-à-dire par un ancêtre qui a dû vivre, il y a de tous les animaux et des levures, c'est-à-dire chez un ancêtre qui a dû vivre il y a plus de 2,5 milliards d'années. Tous les êtres vivants ne vieillissent pas de la même manière. Le vieillissement et la mort sont des inventions de l'évolution qui sont apparues plusieurs fois au cours de l'évolution. Mais nous héritons de cette forme-là. Et l'on a de mieux en mieux disséqué les processus de la sénescence chez ces organismes modèles. On a trouvé toute la cascade qui commence par la stimulation par l'équivalent de facteurs de croissance, équivalent de l'insuline ou des facteurs de croissance, qui stimule des récepteurs type récepteur IGF ou récepteur des facteurs de croissance, qui envoie des messagers dans la cellule, qui active des gènes, et une intervention à ces différentes étapes permettent de multiplier par 2, par 3 la longévité des espèces. On s'est intéressé ensuite à la possibilité de moduler cette cascade sans transfert de gènes. Et on a vu que la meilleure manière d'augmenter la longévité, de stimuler cette voie dans le sens d'une augmentation de la longévité, c'était la carence calorique, la carence nutritionnelle. Ensuite, on s'est intéressé à ce qui pourrait, sans recourir à la carence nutritionnelle, aboutir au même résultat. Et on a isolé des drogues qui le permettent. Et ces drogues, notamment le resveratrol et ses dérivés, commence à être utilisé et testé chez les mammifères et sans doute déjà en complément alimentaire chez l'homme. Donc il n'y a pas de doute que dans les décennies qui viennent, des essais thérapeutiques basés sur une science extrêmement évolutive seront à disposition pour tâcher d'accroître la longévité moyenne de nos semblables. Deuxième grande catégorie, les maladies génétiques avec vieillissement accéléré, avant tout la progéria. La progéria est une maladie qui est liée à la mutation du gène qui code la prélamine A. Normalement, la prélamine A est une protéine très importante. Cette protéine subit l'addition d'un lipide, un farnésyl ou un géranyl, et la prélamine A, géranylée ou farnésylée, est accrochée à la membrane du noyau. Ensuite, un phénomène survient, d'épissage alternatif, qui fait sauter cette région et la lamine A mûre est ainsi synthétisée et c'est elle qui est active. Dans la maladie, il existe une anomalie d'épissage alternative telle que le clivage de la protéine ne peut pas survenir et la prélamine A modifiée, progérine, farnésylée, est en permanence liée à la membrane du noyau et c'est cette liaison anormale d'une protéine anormale à la membrane du noyau qui perturbe toute la fonction du noyau et qui crée les phénomènes de sénescence. Ça, c'est une certitude. Or, on a commencé de développer des médicaments qui peuvent agir à différents niveaux, notamment qui peuvent diminuer la farnélisation, la géranylation de la prélamine. Ces méthodes sont passionnantes car on s'est rendu compte que sans doute le mécanisme du vieillissement physiologique et non plus pathologique dans la progéria impliquait également une augmentation de la proportion de lamine qui continuait sous forme de prélamine farnésylée à être accrochée à la membrane. Donc, deuxième voie. Troisième voie, vous avez lu récemment, la sénescence cellulaire, le fait que des cellules en culture ont une capacité réplicative limitée, est réversible. Par transfert de gènes, il est possible de rendre toutes leurs caractéristiques de cellules sous-embryonnaires à des cellules cutanées d'un centenaire. Cette troisième voie aboutit à des capacités de médecine régénératrice. Ces capacités de médecine régénératrice seraient basées sur la stratégie suivante. Lorsque des ans l'outrage se sera fait sentir, la personne ayant 85 ans et étant bien chenue, l'on prendrait des cellules de sa peau, on transférerait les 6 gènes salvateurs dans ces cellules de sa peau, on les transformerait en cellules souches embryonnaires, grâce auxquelles on pourrait, le cas échéant, traiter par injection de cellules précurseurs, des organes qui sont amoindris dans leur capacité par le vieillissement. Voire même, on pourrait fabriquer des néo-organes ensemencés avec des cellules dérivées des cellules de la personne à traiter, mais jeunes, remplaçant par conséquent des organes usagés. Et Pujadas, m'interrogeant récemment à la télévision, sur cela, m'a dit plein d'espoir, parce qu'il n'est plus tout jeune, lui non plus. Mais alors, grâce à ça, on pourra vivre éternellement. Je vais écouter, monsieur Pujadas, pas d'enthousiasme prématuré. Vous savez, quand on a un couteau de cuisine, on peut changer alternativement la lame, puis le manche, puis la lame, puis le manche, et le couteau est éternel. Mais nous, on est un couteau suisse à plus de 1000 lames. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Alors, la question, pourrons-nous demain agir sur les phénomènes du vieillissement? La réponse est oui. Et sur une base scientifique. Pourrons-nous devenir immortels? La réponse est non. Rien n'indique que nous puissions devenir immortels. En effet, toute l'expérience que nous avons sur les animaux d'expérience nous montre que l'action que nous avons sur la longévité est une variation sur un thème. En d'autres termes, Senorabditis elegans qui vit 25 jours peut vivre 50 jours, mais pas 2 ans. La souris qui vit en moyenne 2 ans et demi peut vivre 3 ans à 3 ans et demi, mais pas 80 ans. Nous pourrons, je l'espère, vivre 105 ans, 110 ans, 120 ans en bonne santé, mais on n'atteindra sans doute pas l'âge de Mathusalem. Et par conséquent, nous n'atteindrons pas l'âge nous permettant de répondre à la dernière question, la conclusion, demain serons-nous humains. Et par conséquent, il faut que je le prédis, que je vous dise ce qu'il en pense, ce que j'en pense. Répondre à cette question est difficile, puisque c'est qu'est-ce que c'est que l'humanité de l'homme ? Si je veux répondre à la question « Demain serons-nous humains ?», ça n'est pas « Demain serons-nous un homo sapiens ayant les caractéristiques biologiques et génétiques d'homo sapiens ?» La réponse est oui. On sera, il y aura, ou bien il aura disparu pour telle ou telle raison, ou bien ça sera homo sapiens. Mais cet homo sapiens aura-t-il les caractéristiques d'amour pour la beauté, de création de beauté, de possibilité à la fois de respect envers l'autre, mais également d'atteinte à l'autonomie de l'autre, les capacités de valorisation de l'autonomie, qui sont ces qualités qui fondent le goût que nous avons pour notre humanité. Alors là, la réponse, je ne peux pas vous l'apporter. Car en réalité, nous aurons en effet la capacité d'attenter à beaucoup de ces traits, à beaucoup de ces caractéristiques. En revanche, l'avenir n'est pas écrit et c'est de vos élèves qu'il dépendra. Merci.
Merci beaucoup. De votre intervention, je retiendrai quand même deux choses. C'est que Aragon disait il y a quelques décennies, la femme est l'avenir de l'homme. J'ai cru comprendre que finalement l'homme n'avait pas d'avenir. Ce qui est un peu angoissant. Et donc que
il en a peu, vous avez raison.
Et donc que la femme est l'avenir de l'humanité finalement. Et puis, si réellement, dans les neurosciences, on va pouvoir lire un livre ouvert dans la pensée d'autrui, je suis pas sûr que les hommes politiques vont beaucoup financer les recherches dans cet axe-là. On a peut-être le temps de prendre une ou deux questions, pas plus, parce que je sais que vous avez des contraintes. Marc-André Sellos, et puis après...
Ça marche ?
Oui, ça marche.
Alors, merci de ces chapitres éclairants. Si vous me permettez de revenir sur le premier, j'avais un commentaire et une question. Le commentaire, c'est que, vu les effectifs populationnels de l'humanité actuelle, il y a au moins quelque chose qui peut changer dans notre évolution. C'est une réduction de la dérive génétique qui a coûté cher à certaines populations en sélection de maladies rares. La question que je me posais, c'est, on voit évoluer les molécules, les pratiques, les aliments autour de nous à une vitesse faramineuse, qui commence à dépasser évidemment celui du rythme des générations. Est-ce que vous ne pensez pas que la modernité a comme nous impose des rythmes de sélection auxquels nous ne pouvons plus répondre, étant donné la lenteur de notre rythme générationnel ? Est-ce qu'on n'est pas dépassé par la vitesse du changement de la pression de sélection ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque donc lié à la modernité derrière ça ?
À la première question... En fait, seul l'utilisage reproductif du clonage, tel qu'on le fait effectivement, vous avez raison, en agriculture, seul cela aboutirait à une réduction de la dérive génétique, de la création génétique. Or, je vous ai dit que pour toutes les raisons du monde, je n'y croyais nullement. Notre monde est caractérisé, en fait, en réalité, par... un clonage intellectuel auquel répond d'ailleurs un enfermement et des particularismes communautaristes réactionnels, mais également une extraordinaire promotion de l'hybridation et du métissage. Et donc, aujourd'hui, rien ne va dans le sens d'un appauvrissement du brassage génétique. Rien, en réalité. L'eugénisme généralisé, qui aboutirait à un monde type « Bienvenue à Gattaca », pour ceux qui ont vu cet excellent film. Je ne sais plus s'il est diffusé, mais il devrait, je pense, vous devriez vous le procurer en classe, absolument, et le diffuser à vos élèves et discuter avec eux de cette perspective. Ce monde-là est très intéressant, il pose effectivement les questions. Il ne dessine pas un avenir réellement hautement probable. C'est la raison pour laquelle les périls que je vois pour l'avenir, vous l'avez imaginé, ne sont pas avant tout des périls, entre guillemets, biologiques. Ce sont des périls liés à l'utilisation faite du pouvoir humain. Où on est, la sono est très mal, je n'ai pas très bien compris la deuxième question.
Marc-André, tu peux répéter.
Je disais que notre rythme générationnel est d'une génération tous les, ça dépend des endroits, 15 à 30 ans. Et je vois la pression de sélection dans les sociétés occidentales, c'est-à-dire le changement du milieu, s'accélérer de façon exponentielle avec une introduction perpétuelle de nouveaux aliments, de nouvelles molécules dans l'environnement, de nouvelles pratiques. Est-ce qu'on ne va pas, avec la modernité, finalement, à un moment où on sera écrabouillé, le milieu changera beaucoup plus vite que notre capacité d'adaptation ne nous permettrait de le gérer.
La réponse est non. Parce qu'après tout, j'ai 67 ans et des brouettes. Le professeur Henri de Lumley est à peine plus âgé que moi, mais un tout petit peu plus que moi. Et lui et moi, qui, par conséquent, avons déjà vécu un tout petit peu, nous avons une certaine familiarité avec l'informatique. Merci. Nous avons une certaine familiarité avec le monde moderne. Merci. Comme vous avez remarqué, nous nous habillons à la mode. Merci. C'est-à-dire que la transformation profonde n'a absolument pas besoin d'être appuyée sur le remplacement générationnel. Nous sommes capables. La grande caractéristique, quand on me demande quelle est la part de l'inné et de l'acquis chez l'homme, je réponds, et je crois que j'ai raison de répondre cela. La plus merveilleuse caractéristique innée de l'humanité, c'est la propension à acquérir. Et même sans remplacement générationnel, nous sommes bouleversables.
Merci. Question au centre.
Oui, je voudrais intervenir sur la troisième question, donc les capacités de l'homme à intervenir sur sa propre évolution. En faisant une petite remarque, le cobaye, la roussette frugivore, le chimpanzé et nous-mêmes avons perdu une capacité importante, je pense, dans l'évolution, c'est celle de fabriquer de la vitamine C. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas intervenir pour restaurer cette capacité perdue, peut-être, au cours de l'évolution, qui serait peut-être très intéressante au point de vue économique.
Est-ce que tu peux répéter ta question, parce qu'on a très mal entendu, s'il te plaît.
Je suis désolé, à la tribune, c'est absolument terrible, on n'entend rien du tout. Allez dans la salle et si je n'entends pas, vous me traduirez.
Non, je rappelais simplement que entre l'homme partage avec le cobaye, le cochon d'Inde, le chimpanzé et la roussette frugivore, ils ont perdu, ces animaux ont perdu la capacité de fabriquer de la vitamine C. Et ça a certainement été perdu au cours de l'évolution, puisque tous les autres animaux sont capables de la fabriquer. La vitamine C est une toute petite molécule. Il serait peut-être intéressant de la restaurer, de restaurer la capacité à la synthétiser par l'organisme humain.
Oui, mais je vais vous dire, c'était beaucoup plus intéressant de modifier la capacité à fabriquer de la vitamine C. Lorsque jadis on envoyait des générations et des générations de Corses du littoral sur des bateaux où il n'y avait pas forcément de citron et où vous avez le scorbut, qu'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, avec la profusion d'aliments que nous avons et de capacité de trouver des sources de vitamine C, fabriquer de manière endogène la vitamine C, c'est-à-dire consommer une partie de l'énergie à cela, n'est pas forcément un avantage sélectif. Le vrai avantage sélectif, voilà, je vais vous dire, le vrai avantage sélectif, ce serait que nous devenions, nous avons une crise énergétique terrible. Cette crise énergétique est associée à une augmentation de la température. Cette augmentation de la température est associée à une aridification. Le vrai avantage sélectif, c'est que nous nous approprions la photosynthèse. Alors là, ça... mais, comme rien n'est gratuit, si on mobilisait toute notre capacité à fabriquer de l'énergie pour la photosynthèse, on deviendrait aussi con qu'un poireau.
Puis on perdrait le plaisir de manger du foie gras, comme vous le disiez tout à l'heure, ça serait quand même triste. Allez, une dernière question, François de Carlo.
Dans le cadre de la sélection darwinienne, un anthropologue connu, dont je ne citerai pas le nom, a produit un article, il n'est pas dans la salle, a produit un article avec un économiste vantant la concurrence dans nos sociétés, mieux que la mutualisation dont on a entendu parler au moins pendant la première journée. On a aujourd'hui dans nos sociétés, quelles qu'elles soient, deux paradigmes, c'est concurrence et compétitivité. Parfois même dans notre association, on la trouve. Est-ce que vous pensez que concurrence et compétitivité sont des moyens de sélection supérieurs à la mutualisation et à la solidarité?
Alors, simplement, ça c'est le sujet d'une nouvelle conférence. Hein. Et en plus, une conférence que je fais, ça fait partie des thèmes que j'aborde.
Pour l'année prochaine.
Voilà. Donc, je ne vais pas vous répondre longuement. C'est un sujet, évidemment, qui est tout à fait fondamental. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je vais écrire un livre sur le sujet qui est ma vision du libéralisme en tant que sous-tendu par une anthropologie pessimiste et montrant une évolution vers la crise grave que nous vivons à l'heure actuelle. Donc, je suis extrêmement familier à cela. Simplement, deux éléments. C'est que si vous regardez dans les écosystèmes, en réalité, dans les écosystèmes, la concurrence absolue, elle aboutit effectivement à la domination d'une espèce sur une autre et par conséquent à des zones entières, par exemple sur Terre ou dans un lac, peu importe, qui sont occupées par une seule espèce. Une seule espèce végétale, une seule espèce de poisson, une seule espèce animale. Ça, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. La sélection naturelle vraie aboutit toujours, en réalité, à la notion de la durabilité d'un écosystème complexe. S'il y a un élément important que nous pouvons tirer de l'observation des mécanismes de la sélection sur l'environnement, c'est que entre la stratégie de la domination et de la victoire absolue qui aboutit à la préséance et au monopole et la stratégie qui aboutit à la coexistence, d'une manière macro-évolutive, la seconde a toujours gagné.
Merci beaucoup. Je crois qu'on peut remercier chaleureusement le professeur Axel Kahn de son intervention.